Alors, je vais commencer par un propos qui est très fort et qui est une hypothèse que je pars de se présupposer. Indépendamment, ça veut dire je le livre au public, à la discussion, mais on part du principe qu'au fondement du monde moderne, il y a l'islamophobie. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans le système monde tel qu'il existe dit maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer, quelle est sa genèse? Je ne vais pas rentrer dans, généralement, il y a toute une discussion sur sa genèse. Est-ce que c'est les croisades dans le Levant et dans le Chèvre? Est-ce que c'est la chute de ces chanats de Grenade, la conquête de l'Amérique qui ont un rapport avec l'islamophobie? Est-ce que c'est la destruction des califats ottomans? Donc, mais de toute façon, réellement, dans le monde réellement existant, il y a un système monde qui est basé sur l'islamophobie. Pas que, mais qui est basé sur l'islamophobie. La peur de l'islam, des musulmans, de l'islamisme et des régions même liées à l'islam, elle justifie des pratiques de dentage, de domestication, d'appropriation et d'exploitation. Moi, j'insiste aussi sur ce terme généralement. Généralement, on parle beaucoup, il y a toute une littérature constructiviste sur la question de l'islamophobie. Moi, je vais beaucoup plus mettre l'accent beaucoup plus sur le caractère réactive de l'islamophobie, mais pas sur sa construction presque par des dirigeants pour essayer de ne pas, qu'on ne s'intéresse pas au vrai problème. Moi, je considère que d'abord, c'est un vrai problème et que ça a un lien avec l'ensemble de l'existence musulmane et qui contribue, comme je l'ai dit, à la marginalisation de nos identités, à l'expropriation de nos ressources à travers de multiples mécanismes tels que les politiques fondées sur l'exportation des ressources naturelles, mécanismes d'asservissement des pays musulmans par la dette, la captation des valeurs des pays musulmans. Donc, tout cet univers-là, il participe à ce mécanisme qui est l'islamophobie. Les symptômes de l'islamophobie, et c'est réducteur ce que je vais dire, donc je le dis d'avance, c'est très réducteur, mais quand même je le partage avec vous, quand bien même c'est réducteur, il se manifeste à travers trois mécanismes principaux. Premier mécanisme, c'est l'aliénation culturelle, spirituelle, entre guillemets. Nos traditions, nos savoirs collectifs sont affaiblis, on nous renvoie, et il l'a dit le frère Bouna, des images déformées de nous-mêmes, tandis que nos identités et nos récits sont marginalisés, ça nous rend vulnérables à la domination. L'autre mécanisme, c'est l'expropriation matérielle et symbolique. Nos ressources, nos œuvres, on en a parlé tout à l'heure, on a donné des exemples, mais c'est des exemples, franchement, je vais dire, très très limités. Mais la question de l'expropriation de nos ressources, elle est fondamentale. Notre souveraineté sur nos corps sont l'objet d'appropriation, la colonisation, le néocolonialisme continue à nous priver de ce qui constitue notre patrimoine et notre autonomie. Le troisième mécanisme, et qui est très important, c'est la destruction de l'existence musulmane. On en a vu un exemple lors de la destruction de Gaza. L'hostilité envers les musulmans légitime la violence, le contrôle, ils cherchent à dompter, à domestiquer et à neutraliser notre vie collective. Et donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je postule que nous vivons dans un monde islamophobe, que l'islamophobie est un phénomène mondial qui façonne la vie des musulmans, selon des contextes bien sûr différenciés, et qui vont aller jusqu'à... D'ailleurs, on vit une ère génocidaire, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y avait pas de génocide avant. Le génocide, par exemple, en Libye, c'est généralement, c'est très peu, on utilise cet exemple, mais le génocide contre les Libyens était un exemple de la destruction de la vie musulmane. Donc, l'islamophobie, c'est un phénomène global, mais différencié selon le contexte, les dynamiques politiques, culturelles, historiques, ce qui me permet, après, de parler du contexte un peu français. Donc, en fait, ces modalités, comme je l'ai dit, il varie fortement selon les pays, mais même à l'intérieur du même pays, selon l'histoire, selon les rapports de pouvoir, selon le contexte politique et social, ce qui rend l'islamophobie très plastique, mais adaptable, mais largement répandue. Et donc là, je vais commencer à parler de la crise politique que connaît la France depuis des décennies et qui est rentrée dans une phase très, très aiguë. Et là, je vais utiliser deux concepts. Il y en a un qui est utilisé par un anthropologue libanais qui s'appelle Hassan Al-Haj et un autre concept qui est issu du travail théorique des pires, notamment celui de Sadr Khayari, la contre-révolution coloniale. D'abord, première chose, c'est que cette crise, comme je l'ai dit, elle est réactive. Il y a une réponse à un problème qu'ont rencontré le colonialisme. Historiquement, les sociétés coloniales, ils étaient animés par une dynamique expansionniste, territoriale et idéologique. Mais cette dynamique, elle a ralenti, elle est rentrée dans une phase de déclin, qu'il soit réel ou imaginé, ce qui change la nature du pouvoir et de la culture. Et il y en a trois exemples, ça c'est ce que donne Hassan Al-Haj, mais on peut donner d'autres exemples. Le sionisme israélien, les blancs d'Afrique du Sud, les chrétiens libanais, notamment les phalangistes. Donc ces cas, ils servent de modèle pour comprendre comment certaines cultures occidentales contemporaines se perçoivent elles-mêmes comme assiégées et en déclin malgré leur domination globale. Pourquoi ? Parce que, ça c'est Sadri qui le précise, parce que le pacte national colonial racial en France, il a subi trois chocs très importants. Le premier choc, c'était la succession des défaites françaises face à la révolution anticoloniale. On ne le dit jamais assez, on parle beaucoup de la révolution socialiste, mais on ne parle jamais de la révolution anticoloniale qui avait un caractère majeur et qui a périclité l'empire colonial français et l'empire aussi colonial britannique. Le deuxième choc, c'est la mondialisation libérale qui va bousculer, et là je vais essayer d'aller très rapidement, qui va bousculer la dimension nationale de la République française avec, ça veut dire avec la dimension européenne, l'Union européenne, la montée en puissance de d'autres rivaux à la domination occidentale, à savoir la Chine. Le troisième choc, et ça nous intéresse énormément, c'est la découverte dans les années 80 que la France était désormais musulmane, arabe, africaine. Et cette découverte, elle est l'issue du grand de lutte de l'immigration dans les années 70 et des luttes de leurs enfants. Généralement, on partait, et là je vais faire juste entre parenthèses, quand il y avait la marche de l'égalité contre le racisme, ça a été renommé dans le dispositif médiatique la marche des beurs. Pourquoi la marche des beurs? Parce qu'ils voulaient faire la différence entre les beurs qui s'assimilent, qui s'intègrent, par rapport à leurs parents qui faisaient les grèves dans les usines de Peugeot et Talbot, et que eux, ils étaient considérés comme une grève islamiste. Une grève téléguidée par les ayatollahs en Iran. Et ça, ça montre, comme je dis, le caractère réactif de l'islamophobie. La révolution iranienne a façonné une grande partie de la panique géopolitique de l'ensemble de l'Occident, y compris ici en France. Ils vont développer une culture guerrière, avec un ciblage d'un ennemi, qui soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et c'est pour cette raison que vous avez entendu de plus en plus le vocabulaire de la guerre, il est utilisé pour tout. Macron, quand il fait un conseil de guerre contre la Covid, guerre contre la drogue, guerre contre le terrorisme, guerre contre la Covid. Plus que cela, c'est pas juste, c'est en cela que c'est important. C'est pas une question discursive, c'est aussi une réalité pratique. Je parle de, par exemple, l'opération Sentinelle, qui a vu déployer de 2015 jusqu'à 2021 plus de 200 000 militaires sur le plan interne. Parce qu'il y a un lien organique entre ce qu'ils appellent entre guillemets les expéditions ou la guerre extérieure et la guerre intérieure. Il y a une mondialisation de ce modèle. Ce modèle de colon en déclin n'est plus limité à des situations coloniales historiques. On le trouve en Inde, face à la communauté musulmane. D'ailleurs, on parle, c'est-à-dire, on a ici le discours, en tout cas la théorie de Arabia, et on a la théorie du grand remplacement. Là-bas, ils ont Le djihad d'amour, c'est l'équivalent en fait de notre théorie de remplacement, où les hommes musulmans sont accusés de se marier avec les femmes hindoues pour pouvoir créer de plus en plus de musulmans. Je donne juste les autres exemples. En Birmanie, ils ont leur théorie de remplacement qui est le djihad démographique. Il y a, concernant les Peuls aussi, il y a une situation des Peuls qui est de plus en plus perçue comme une communauté très radicalisée et qui doit être surveillée, qui doit être réprimée. Et il y a bien sûr la situation en Chine et ainsi de suite. Je vais essayer d'aller très rapidement face à cette situation parce que malheureusement on manque de temps. Il faut réagir. Première réaction à faire, c'est de s'organiser. Nous-mêmes, c'est très important. S'organiser. Déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très important. Généralement, auparavant, on déléguait la question de la compréhension de ce genre de phénomènes sociaux à des intellectuels ou à des organisations blanches, et les de gauche et les de droite. Nous, ce qu'on a fait déjà, je vois qu'il y a un saut qualitatif, y compris aujourd'hui. Auparavant, je dirais il y a plus de 20 ans, généralement, on mettait beaucoup plus l'accent, c'est la question de la discrimination. Maintenant, il y a une volonté de comprendre intellectuellement, en termes de description, etc. C'est-à-dire, on fait confiance, ça veut dire à notre réalité, pour pouvoir produire un savoir subtil. Alors, pour essayer d'avancer encore, on affirme un certain nombre de principes. L'islamité n'est pas à discipliner, elle est à affirmer. Ça veut dire sortir de la logique de la revendication au registre, en fait, de l'affirmation. La place des musulmans est au cœur de la société et non à sa marge. Notre puissance est collective, notre droit est politique, notre lutte est globale et au service de la justice. Et là, je vais essayer d'utiliser la pensée d'un philosophe musulman très important, Tariq Ahmed, que malheureusement, beaucoup de ses travaux ne sont pas traduits en français. Il parle de quelque chose de, pour moi, fondamental pour notre communauté, pour notre homme. Il parle de notre responsabilité universelle et dans notre éthique islamique. On s'inscrit dans le concept des dépôts cosmiques et de la responsabilité humaine, l'aman. Selon une vision éthique islamique, l'humanité porte un dépôt de confiance accordé par Allah Azzawajal qui confère une responsabilité envers la terre et toute la création. Je donne juste un exemple pour expliquer cette question de l'aman. Quand on prend le peuple palestinien, qui ne s'appelait pas peut-être à l'époque le peuple palestinien, il a accueilli un certain nombre incalculable de peuples. Les Maghrébins, d'ailleurs, il y a Harat al-Mahariba, Al-Quds. Les Arméniens qui fouillaient les génocides. Les musulmans qui fouillaient les génocides dans la Russie tsariste. Ils ne partaient pas des principes du droit des réfugiés. Ils partaient d'un principe transcendantal de l'asile qui est au cœur de l'expérience musulmane. Là, je vais utiliser deux concepts qui rentrent en contradiction. Le premier concept islamique, c'est le tadbir, qui désigne la gestion sacrée de la terre selon la volonté divine, comme ça a été pratiqué par les sociétés musulmanes avant le colonialisme. Et ce concept, ou cette démarche, elle rentre en contradiction avec un autre concept qui est au cœur de la modernité aussi. C'est le concept de tamlik, l'appropriation, qui est au cœur du capitalisme prédateur et qui désigne la propriété absolue prétendue par les occidentaux et capitalistes qui agissent comme s'ils étaient les maîtres de la terre. Le conflit, et je vais terminer, le conflit entre ces deux démarches, le tadbir et le tamlik, illustre la tension entre une gestion divine et appropriation humaine. Cette éthique dépasse le simple bien-être humain pour englober les écosystèmes, les habitats, les espèces qui affirment la responsabilité collective de l'humanité pour préserver et protéger notre terre. Je vous remercie pour votre écoute.